Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 176e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, sélection de l'actu gaming, app, tech, culture, et puis tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui nous semble important. Une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caf.
Bonjour Monsieur Fasquille.
Comment ça va bien?
Bah écoute, moi ça va. J'étais en train de me dire que effectivement, si on couvre tous les trucs qui nous paraissent intéressants, ça va déborder. Et en plus, en fait, on tiendra jamais la demi-heure en vrai. On en est à quand même... Ouais. Quelques épisodes maintenant, et des fois je fais la conduite et je me dis, bon, ça, on va se le garder, on en parlera sur le forum, sur Discord, sur les réseaux sociaux. Mais là, là j'ai essayé de faire rentrer un max de trucs au chausse-pied, et il y a des choses que j'ai décalées. Hein. Voilà, vous aurez la semaine prochaine, vous aurez des choses en plus que je vais pouvoir créer le document tout de suite, parfait.
Parce qu'on a déjà une grosse conduite cette semaine, donc... Et on va attaquer avec le gaming, avec Nier Replicant, est-ce que tu as surnommé la version Whatever?
Ouais, parce qu'en fait, ces gens sont drôles. écoute, normalement, le nom complet, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle la version Whatever, parce que le nom complet, c'est Nier Replicant version 1.2.22.47, voilà, ça m'emmerde, ok? Donc en vrai, c'est version 1.22.47.44.87.139, on s'en fout, ça n'a rien à... Franchement, vraiment, mais Monsieur Tarot, il faut arrêter avec ces noms-là. Sauf que, bon, il va pas arrêter maintenant, car ce jeu titre, en fait, est un jeu qui existe déjà, puisque c'est un remaster d'un titre sorti en 2010 sur PS3, ils n'allaient pas changer le nom. Je précise qu'en 2010 sur PS3, c'était déjà un titre un petit peu suranné, avec une tech qui sentait bon la PS2 quand même, et on retrouve un peu ses limitations... dans la version remasterisée que nous avons sur PC et console moderne, n'est-ce pas? Puyo sur Gamekult, tu as mis un 7 sur 10 qui sent bon un peu la nostalgie quand même. Parce que effectivement, il faut surtout passer le début de l'aventure qui est extrêmement pénible. On est sur un level design qui est un petit peu compliqué, qui est fait de couloirs super étriqués et d'allers-retours très pénibles. Et la narration a vite fait de vous paumer au départ, si vous connaissez pas du tout l'univers, si vous savez pas pourquoi vous êtes là, etc. Et d'ailleurs, je ne vais pas dans ce podcast vous expliquer la saga, parce que déjà, il faudra un podcast pour vous expliquer la saga.
C'est ça.
Et c'est hyper chiant, et ça fait partie du plaisir du titre, qui est c'est un jeu d'action. On est là pour bastonner du monstre, etc. Mmh. Mais il y a tout un emballage de narration, comme pour Nier Automata, qui fait que, bah voilà, vous en profitez, et on refait des runs dans Nier Automata pour avoir différentes fins, pour découvrir de plus en plus de choses dans le jeu. Il n'y a pas exactement ça dans Nier Replicant, mais en gros, il y a des opportunités de refaire l'histoire avec des persos alternatifs, etc. Donc pour les gens qui accrochent, c'est très bien. Maintenant, je préviens les gens qui sont fans de jeux d'action mais qui sont pas des gens très patients. Faites attention parce qu'il y a plein de trucs qui vraiment peuvent vous faire lâcher le jeu. Il y a un milliard de quêtes FedEx ultra chiantes et sans aucun intérêt. Et qui sont faites avec, tu vois, deux couloirs, etc. Et comme en plus...
Ah, tout ce que j'aime.
Voilà, et c'est pour ça qu'on parle pas d'un remake mais d'un remaster parce que tu te tapes tous les trucs qui étaient chiants en 2010, à savoir des loadings toutes les deux portes. Alors évidemment, maintenant on est sur des SSD machin, etc. Ça va super vite. Ça va assez vite. Mais ça te pète le rythme de l'action et ils ont vraiment pas fait trop d'efforts de ce côté-là. Alors, c'est très beau. Il y a une bande-son incroyable d'un Keiichi Okabe qui, avec le studio Monaka, qui s'est fait vraiment plaisir parce qu'ils ont réarrangé quelques trucs. Et franchement, enfin, si vous êtes un peu mélomane du jeu vidéo, vous allez vous régaler. Mais il y a plein de trucs qui peuvent vous crisper en termes de jeu. Les combos au niveau des combats, etc. sont pas fous. Alors après, ça reste du Nier Automata. Ça reste du Nier, donc t'as des changements de caméra un peu surprenants qui sont rigolos quand t'es en train de te balader dans les levels, donc ils vont changer un peu le gameplay, ta façon d'aborder le jeu. Mais il y a vraiment ce petit côté naphtaline du titre qui peut vraiment vous crisper. Et je sais que moi, au début, j'ai vraiment dû m'accrocher pour passer la mise en bouche de l'aventure, parce que faire trois loadings, parler à deux persos pour aller buter trois monstres, revenir, reprendre une quête dont tu Joseph Total pour refaire ça, c'est, voilà, le début est pas évident. Donc, faut vraiment se plonger dedans. Et encore une fois, la narration, elle est, bah, c'est du Yoko Taro. Donc, voilà, vous risquez d'être perdu si vous accrochez pas au truc. C'est des narrations inversées, en fait. Donc, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement fans. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques au truc. Donc, je préfère vous prévenir. En tout cas, niveau réalisation, ça va, ça tient plutôt la route. Il y a pas mal de gens qui ont craché sur la version PC. Ça fait le taf. Quand vous lancez le jeu, paniquez pas. Vous allez être en mode fenêtre dégueulasse. Ça s'arrange dans les options. Il y a de quoi faire. Pas besoin d'un patch Day One ou d'attendre que les fans finissent le travail pour Nier Automata. Merci beaucoup. Mais en revanche, vous avez des bugs relous du style tu t'as un loading, le curseur de la souris revient au milieu de l'écran. Voilà. Bah oui, oui, bon, c'est des développeurs console, ils font des efforts, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, 7 sur 10 chez Gamekult, vous avez des notes relativement bonnes un peu partout, mais il faut pas vous attendre à un remake de ouf, ça reste uniquement un remaster propre, mais qui ne va pas non plus révolutionner le genre si vous n'étiez pas un fan.
Et puis on reparle d'Apex Legends avec son mode Arena 3v3.
Ouais, qu'on avait annoncé la semaine dernière, mais ça y est, on sait enfin ce que c'est, et ça va être pour les gros gros fans de baston et qui sont pas du tout fans de Battle Royale, en fait. C'est un gros virage pour Apex Legends. Je rappelle que c'est un mode qui est permanent. Je vous ai linké la page officielle du site qui explique exactement en détail ce qui est dans ce mode Arena. En gros, et pour faire une simplification, on se retrouve dans un mode très proche d'un Counter-Strike ou Valorant avec deux teams, dont 3v3 uniquement, qui vont se bastonner avec un enchaînement de rounds, en fait. Et vous allez avoir, au début de chaque round, la possibilité d'acheter des armes, pas d'acheter car c'est différent, vous aurez des matériaux pour crafter des armes, ça n'a rien à voir, désolé. Bon, c'est exactement pareil les mecs, hein. Le foutage de gueule stop. Vous allez avoir donc la possibilité comme ça de faire des loadouts en fonction de ce que vous avez réussi à faire pendant le round précédent. Donc un principe qu'on connaît depuis maintenant plusieurs décennies, hein. Counter-Strike, ça nous rajeunit pas, hein, je crois. Et puis là, vous aurez donc de quoi vous faire rincer, hein. Si l'équipe en face est vraiment beaucoup plus forte que vous, ça va durer un petit peu longtemps. Puisqu'il y a trois rounds gagnants, donc évidemment ça peut faire du 3-0 assez vite. Évidemment, vous allez retrouver exactement le même principe que dans un Rainbow Six Siege, donc vous pouvez avoir des rounds que vous perdez 3-2, alors vous meniez 2-0, les trucs qui sont pas du tout pénibles. Et il y a un système un petit peu différent dans le sens où vous êtes obligé d'être en avance de deux rounds, un peu comme au ping-pong, tu vois. Il faut gagner deux points, deux trucs de suite, ouais, sinon ça marche pas. Donc, et il y a quand même un système de tie-break, parce que sinon on va vraiment se faire chier. Mais donc un match peut aller jusqu'à 9 rounds max, c'est-à-dire vous pouvez être bloqué à 4-4, et là, bon bah les gars, maintenant c'est golden goal, quoi, faut y aller.
C'est pas mal en fait, parce que quand je repense à nos parties de Valorant où parfois on tombait sur des gens qui étaient vachement meilleurs que nous et tu te fais rouler dessus pendant une dizaine de rounds, c'est quand même pas très fun. Là au moins après deux rounds c'est fini, et si c'est pas fini, bah ça veut dire que t'as une chance, donc autant que ça continue, quoi. Ouais, enfin, je trouve pas le système débile.
C'est le système que t'as sur un Rainbow Six Siege en fait.
D'accord, auquel j'ai pas joué. Donc, ouais.
Et dans Siege c'était un peu pareil. Après t'as des modes compétitifs qui en plus te forcent les tie-breaks. Dans Valorant c'est pareil, je crois que tu peux pas gagner 13-12, il faut gagner 14-12, un truc comme ça. Mais donc du coup ça peut aller plus haut, mais bon, c'est un bon système. Après je vous dis, voilà, ça durera 3 rounds si jamais le matchmaking vous met en face de gens beaucoup plus forts que vous, ça peut être rigolo. Et oui, avec les points pour le crafting, que je refuse d'appeler crafting, vous pourrez augmenter vos armes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour acheter une arme de base, mais ensuite, vous pouvez la garder, rajouter des modes dessus, comme ce qu'on fait pendant la phase Battle Royale. En tout cas, je sais que sur Geekzone, il y a pas mal de gens qui sont fans de compétitif et qui sont ultra contents de voir le truc arriver, parce que le gameplay d'Apex, il est extrêmement fun. Et du coup, je pense qu'il va très bien se prêter à ce mode de jeu.
Et puis, tu voulais nous parler de Resident Evil Village.
Ouais, on va en parler la semaine prochaine, surtout puisque le test, ça sera la semaine prochaine, car le jeu sort le 7 mai. Mais là on va revenir sur la démo en fait, car oui, il y a une démo pour Resident Evil Village qui est Resident Evil 8, hein. Attention, jeu de mots avec le I, le L, le L. Oh là là, toi, le marketing a pété à Capcom, ça fait
compliqué,
plaisir.
Oui.
Donc en gros, il y avait une démo qui devait être exclue, puis finalement non, et puis finalement oui, alors elle sera disponible plus tôt, mais plus longtemps. Enfin bon, c'était incompréhensible, c'était vraiment le bordel. Et finalement, ça sera une démo qui va être dispo pour tout le monde du 2 au 10 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, série, blablabla, et même Stadia. Et oui, Stadia, on ne l'oublie pas, on en parle régulièrement, on est avec vous les gars. En revanche, il y a un petit côté bien foutage de gueule sur cette démo, c'est qu'elle sera jouable que pendant une heure, et il va falloir choisir entre une partie dans le village ou dans le château. L'aventure se déroule dans différents endroits, et là on vous en propose deux, et puis c'est tout, ensuite tu peux désinstaller et puis attendre le jeu gentiment. Voilà, je trouve ça un petit peu moyen, mais bon, bref, c'est un petit côté teaser, mais tu sais, le gâteau apéritif du gâteau apéritif. Tu goûtes le truc, et puis après on te reprend le bol, et on fait « Non mais attention, on va dîner bientôt, donc
du trailer, quoi.
Voilà, tu vas plus avoir faim, il faut faire attention. Non, c'est chiant. Voilà, on est exactement dans la bande-annonce Marvel de la bande-annonce, tu sais. Donc, on te met un logo et hop, là, on te le retire. C'est maintenant, on fait du theory crafting. C'est pas à ce point-là, mais je pense que ça va être un petit peu pénible. Et il y a aussi une autre... Alors, mauvaise nouvelle, je temporise. Hein. Le multi qui devait être dispo à la sortie du jeu, qui s'appelle Resident Evil Reverse, va être à la bourse. Sortira cet été, ça sera du deathmatch avec des pièges, etc., entre 4 et 6 joueurs. Et évidemment, comme vous avez tous joué comme des oufs à Resident Evil Resistance l'année dernière, je pense qu'on est dans le level OSEF. Parce que je crois que le multi sur RE, ça n'a pas trop marché, quoi. Mm-hmm. Alors, il y a des bonnes idées en plus, hein. C'est pas que le truc est vraiment mauvais. C'est juste que, ça fonctionne très très moyennement. Et en plus, ils n'ont pas très bien géré le dernier, donc je suis un petit peu inquiet pour celui-là. En tout cas, bien joué de le décaler, hein, parce que si tu le sors à moitié cassé, on sait qu'il ne marchera jamais. Donc là, ça sortira cet été. Et c'est la date, hein. C'est-à-dire que me demandez pas un truc plus précis sur le communiqué marqué cet été, donc ça peut être fin de l'été comme au début. On verra bien.
Et puis tu voulais nous parler d'un Early Access avec Scavengers.
Ouais, qui est dispo un petit peu partout, sur tous les streams Twitch du monde, avec des drops de code pour l'installer dans Steam, si je dis pas de bêtises. Scavengers, c'est en fait un jeu PvEVP, hein, voilà, si vous vous rappelez de l'excellent Crucible avec une carrière extraordinaire, dont on se rappelle tous, évidemment, hein. C'est un des jeux Amazon qui a pris un énorme mur.
Oui, on en parlait encore la semaine dernière, d'ailleurs.
Voilà, qui est décédé d'une mort de la oséphrie totale, c'est-à-dire que les gens ont fait « Ah bon, il est mort ?» j'ai pas eu le temps de le tester.
Qui ça ?
Voilà, c'est un peu le problème. Alors, Scavengers, ça prend quand même sacrément la même direction, sauf que là, évidemment, comme c'est un nouveau Early Access avec du drop Twitch, ils cartonnent sur Twitch, hein. Je crois que là ils ont dépassé, il y avait quand même pratiquement 70 000 personnes en train de mater des Twitch random qui avaient réussi à avoir des partenariats pour faire des drops de clés. Il n'y a pas de random, il suffit de regarder un stream n'importe lequel qui a le partenariat et vous avez une clé dans la demi-heure, vous recevez un mail et bisous. J'ai testé la chose, je suis très circonspect, c'est-à-dire que techniquement c'est pas magique, les personnes qui ont fait les animations de course des personnages, il va falloir y retourner, hein, parce que c'est très très moche. Et après, il y a quelques bonnes idées. En gros, vous êtes sur une carte, vous avez des ennemis contrôlés par le serveur, l'ordi, qu'il va falloir buter pour récupérer des ressources, crafter des armes, et puis derrière, réussir à vous échapper sur un vaisseau qui va vous ramener dans l'espace. J'ai pas regardé le scénario, hein, je vais pas vous mentir. Et évidemment, ce vaisseau, il y a des gens qui vont vouloir le prendre avec vous et qui vont peut-être vous emmerder jusqu'à la dernière seconde. C'est pas nul, le feeling des armes est pas ridicule, c'est pas vraiment un mauvais jeu, ça prend 10 gigas, donc allez tester le truc, c'est gratos, si vous avez rien d'autre à faire, mais j'avoue que je vois pas l'élément différenciateur ou le truc qui va faire que « Oh oui, j'ai vraiment envie de jouer à ça, tu vois. » Il y a vraiment, pour moi, pas vrai d'incentive forte. Alors après, c'est de l'early access. Est-ce qu'ils vont construire une communauté pendant cette phase d'early access et fonctionner derrière ? On verra bien, pour l'instant, j'ai mes doutes.
Et puis on termine cette section gaming avec des news de Valorant.
Ouais, qui va nous donner du show. On s'était gelé dans la dernière map que je déteste, je crois que ça s'appelle Icebox. Et là, on va avoir une nouvelle map dans l'épisode 2, acte 3. Oui, parce qu'ils ont découpé ça au niveau du Battle Pass, c'est un peu compliqué, hein, voilà. Et là, on aura une nouvelle map qui va s'appeler Breeze, qui sera ambiance Caraïbes, qui va être dispo le 12 mai. Il y a déjà un patch là qui est sorti avec de différents équilibrages, me semble-t-il. Je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast les pages officielles avec toutes les vidéos de la nouvelle carte, etc. Les nouvelles skins hors de prix du pass de combat. Enfin, il y en a qui sont incluses dans le pass de combat, mais évidemment, il y en a des nouvelles à acheter avec beaucoup d'argent. Je rappelle que les prix des skins dans Valorant, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop cher, putain.
Alors, est-ce qu'on paye en bitcoin?
Ah ouais, non, mais là, je pense qu'on...
Le mec qui rajoute de l'huile sur le feu, tu sais.
Non, c'est ça. Tu vois, est-ce que ce sont des NFT? Non. Alors franchement, je trouve que c'est un petit peu abusé. Même moi qui joue pas mal, des fois je me dis oh c'est rigolo, tiens celle-là je l'achèterais bien. Tu regardes le prix, tu fais quoi? Attends, pardon, excusez-moi. C'était quoi? J'ai bien converti, c'était bien 27 euros votre skin. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu l'idée. On est vraiment pas loin de ça. Je trouve que c'est abusé. En tout cas, le jeu évolue très bien. Il y a une partie pro qui est en train de se mettre en place. Ça a l'air de s'imposer tranquillement. Le jeu reste très très fun. En tout cas, j'ai hâte de voir la map là, parce que s'il pouvait virer Icebox au passage, moi ça m'arrange. Je sais pas, j'ai un blocage avec cette map.
Allez, on passe du côté des apps avec Vivaldi qui se prend pour le Cookie Monster.
Ouais, les cookies de notre copain le GDPR en anglais, General Data Protection Regulation. Ouais, des cookies partout. À chaque fois que vous ouvrez un site web, c'est insupportable. C'est gentil de vouloir nous protéger, les mecs. Merci, nos lawmakers. Mais qu'est-ce que c'est chiant, oui. Qu'est-ce qu'on n'en peut plus en vrai, et je pense que c'est une des meilleures idées avec le pire résultat possible.
On en est arrivé à un stade où les gens installent des extensions qui font oui à tout en fait, donc c'est complètement débile.
Ou non à tout.
Oui, enfin,
les extensions intéressantes font non à tout.
C'est ce que j'allais dire, mais à la base il y avait des extensions comme I don't care about cookies qui est ultra populaire et où en gros c'était on dit oui, on dit amen à tout, ce qui est un petit peu contre-intuitif.
Exactement. Donc là en fait on est avec on avait déjà parlé d'ailleurs d'une extension qui s'appelle Ninja Cookie, qui est fait par un petit Frenchie qui est dispo, enfin qui passe sur nos forums,
tout à fait.
Qui permet d'essayer d'automatiser ça ou de vous bloquer la page quand il y a un bug, et ça c'est très très chiant. Et là Vivaldi dans sa version 3.8 annonce une nouvelle fonction qui s'appelle Cookie Crumbler. Alors c'est pas traduit d'ailleurs, le CM français, enfin la personne qui s'occupe de la traduction a posté sur Twitter pour demander de l'aide pour trouver un truc en français qui soit pas ridicule.
Les émietteurs de cookies, les émietteurs de biscuits, ça va pas être facile.
Ça marche pas trop quoi. Donc là, le but est exactement le même, hein, c'est-à-dire virer les pop-up de cookies à la volée de la manière la plus intelligente possible. Alors attention, c'est pas on par défaut. Il faut aller chercher ça dans les paramètres liés à la vie privée. Ça fonctionne aussi sur la version Android. Et j'ai pas encore eu le temps de tester pour voir si ça marchait très bien. Et en plus, pour tester, il va falloir que je vire Ninja Cookie qui dans mon Vivaldi est intégré. Je rappelle pour ceux qui ont oublié que Vivaldi est un des meilleurs navigateurs Chromium dispo sur le marché. En tout cas, un des plus paramétrable et vraiment vraiment efficace. D'ailleurs, cette fonction anti-cookie est aussi dispo donc dans la version Android, je le disais, mais en plus Vivaldi n'est pas du tout copain avec Google malgré le fait qu'ils font un produit basé sur Chromium. Et du coup, ils ont décidé de bloquer complètement un truc qui s'appelle le FLOC, le Federator Learning of Cohort, qui est en fait le remplaçant des cookies que pousse Google actuellement. Alors, je vais pas vous expliquer comment ça marche parce que déjà, un, j'ai mal à la tête et deux, c'est un peu compliqué, mais je vous ai linké c'est linké dans la page que je vous ai mis pour accompagner ce podcast. C'est pas une très grande idée, on va dire, que Google a été mieux inspiré parfois, si je vous jure. Et en fait il y a plein de gens là qui sont vent debout contre ce truc là et en fait non seulement ils ne l'utiliseront pas au niveau de Vivaldi, mais c'est bloqué, c'est-à-dire que s'il y a des sites web qui ont déjà mis en place des choses, ça sera bloqué, enfin les composants nécessaires pour que ça fonctionne vont être bloqués carrément au niveau du navigateur. Vous pouvez faire confiance à Apple du côté de Safari, Mozilla du côté de Firefox pour bloquer tout ça aussi. Je pense que ce truc-là va aller dans le mur assez vite. S'ils forcent le terrain, en fait, ça marchera dans Chrome et puis c'est tout, parce que je pense que Microsoft avec Edge le suivra pas non plus. Donc ils vont quand même, ils ont beau avoir une part de marché énorme, ça va pas faire rire les gens qui voudraient l'utiliser pour vendre de la pub et continuer de faire de la statistique et de savoir à qui ils vendent quoi. Écoutez, je pense que cette opération ne va pas fonctionner pour l'instant. Je précise, hein, on est encore au niveau du test, c'est pas une mise en place officielle, mais je doute que ça fonctionne partout très vite.
Et puis on termine cette section app avec des news du côté de Mozilla France
qui lance son VPN, alors qui avait déjà été lancé mais pas en France. Mozilla s'est pas improvisé fournisseur de VPN avec des serveurs sur la planète qu'ils ont été construits avec leurs petites mains. Ils se sont en fait associés avec une boîte qui s'appelle Mulvad, et ils ont rajouté une fonction qui s'appelle WireGuard pour compléter ça et complètement planquer votre IP. Alors la bonne nouvelle, c'est que Mozilla a quand même une excellente réputation dans le monde en général. Alors le marché du VPN est extrêmement concurrentiel. Eux, ils se positionnent avec un tarif assez classique qui est de 10 euros par mois et 5 si on s'abonne pour l'année. Donc oui, abonnez-vous à l'année les gars, évidemment. Mais vous pouvez toujours lâcher 10 balles pour tester la vitesse des serveurs et voir si ça fonctionne comme vous le désirez. En revanche, effectivement, le grand public risque d'avoir du mal à être au courant que l'offre existe. surtout s'ils sont fans de YouTube, et qui sont assassinés de pubs pour NordVPN et compagnie, qui sont dispo absolument partout, et même nous, hein, même nous, ils ont trouvé nos boîtes mail, genre, hey, salut!
Tu fais des podcasts, hein?
On ferait pas un truc tous les deux, avec ton, tu vois? Donc voilà. Maintenant, je connais un petit peu les tarifs, et j'ai fait,
c'est ça.
Bon, bref, je pense que je prendrai un mois chez Mozilla pour tester la chose. Et puis, bon, ça sera une bonne manière, en fait, finalement, de soutenir la société qui fait des bons produits qui sont entièrement gratuits avec Firefox en premier, évidemment.
Ouais, mais on rappelle d'ailleurs au passage que si vous êtes sur un VPN gratuit, il faut arrêter ça tout de suite.
Oui.
Il faut passer sur du payant, c'est quand même vachement plus safe.
Car si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Exactement, je ne voulais pas le dire, mais voilà. C'était l'idée. On passe du côté de la culture et je voulais vous parler de musique et de séries télé. Oh, bah ça, alors, quelle surprise.
Je me demande, mais vraiment, ça serait pas ta partie, Monsieur Fasque?
Peut-être, écoute, on va commencer par de la musique électronique, avec un nouvel album d'un duo composé de deux artistes que j'aime vraiment beaucoup, c'est Ulrich Schnaus et Jonas Monk.
Alors, Ulrich Schnaus, qui sont ces gens?
Voilà, Ulrich Schnaus, c'est un compositeur allemand qui a connu un gros succès au début des années 2000. En fait, il a sorti des albums qui étaient des albums plutôt ambient, Far Away Trains Passing By et puis A Strangely Isolated Place, avec lequel il s'était fait connaître. Il est aujourd'hui membre à part entière depuis 2014 de la formation Tangerine Dream, qui est quand même une formation assez légendaire.
Mais moi, je connais, c'est bon.
Voilà. Qui n'a plus aucun membre fondateur, hein, puisque le dernier qui était resté envers et contre tout est malheureusement décédé il y a quelques années, je crois. Mais bon, la formation continue à exister. Et ce qu'il fait au sein de Tangerine Dream est vraiment très intéressant. Là, il s'est associé donc avec Jonas Monk, qu'on connaît aussi sous le nom de Manuel, qui est un artiste de musique électronique qui est basé au Danemark. Marc, Emmanuel, qui fait beaucoup de trucs avec du piano et des guitares et qui a introduit peu à peu des éléments électroniques en fait dans sa musique. Et donc ils ont collaboré, c'est la troisième fois si je dis pas de bêtises. Il y avait eu une première collaboration en 2010 qui s'appelait Epic, une autre en 2017 qui s'appelait Passage, et aujourd'hui donc ils ont sorti 8 Fragments of an Illusion. C'est un album vraiment très très planant, très ambient, très minimaliste, beaucoup de guitares, beaucoup de nappes de guitares. En fait, il y a un petit côté très shoegaze pour les gens qui connaissent, donc c'est ce genre musical dans les années 90 où on mettait vraiment un mur de guitare en avant avec beaucoup de réverb, etc. Et des envolées mélodiques qui sont vraiment très très sympas. Et je vais arrêter d'en parler, je vous propose d'écouter un petit extrait tout de suite, un extrait donc de cet album qui s'intitule 8 Fragments of an Illusion, et le morceau que j'ai choisi c'est Return to Burlington. Return to Burlington, je vous filerai bien évidemment le lien pour aller acheter l'album qui est sur Bandcamp, 8 Fragments of an Illusion, donc un album collaboratif entre Ulrich Schnaus et Jonas Monk. Et puis on passe du côté des séries télé avec une nouvelle série chez nos amis de HBO et donc a priori OCS en France, qui s'appelle Mayor of Easttown. C'est une série d'enquête criminelle. Alors c'est pas ultra original, on en a déjà vu des milliards comme ça. Ça se passe dans un petit bled paumé de Pennsylvanie au plus profond des États-Unis. Forcément, qui dit petit bled paumé dit que tout le monde se connaît, et donc forcément quand il y a un meurtre, ben ça devient très très vite tendu. Donc ben, c'est l'occasion de faire un peu une étude de personnages qui sont plutôt intéressants, et puis le cast est vraiment pour le coup assez solide, puisqu'on a donc Kate Winslet qui est dans le rôle principal de la détective Marchian qui va mener l'enquête. On a aussi Julia Nicholson qu'on avait pu voir dans Masters of Sex, Jean Smart qu'on ne présente plus évidemment, qui est une actrice légendaire, et Angourie Rice qu'on avait pu voir dans les Spider-Man, puisque c'est elle qui joue la petite amie de Ned, la petite blonde un peu pétillante, qui est une excellente actrice d'ailleurs. Je vous recommande de suivre un peu sa filmo. Il y a Guy Pearce aussi qui est dans le cast. Il y a Evan Peters qui joue le rôle du détective Colin Zabel, qui est un détective du county qui va venir filer un coup de main, et ça va forcément être un petit peu tendu au début. Donc voilà, il y a deux épisodes pour le moment, il y en a 7 qui sont prévus. A priori c'est une mini-série, donc ça devrait se boucler à la fin de l'épisode 7. Et c'est une série qui est showrunnée par un monsieur qui s'appelle Brett Inglesby. Décidément, je suis gâté avec les noms faciles à prononcer aujourd'hui.
Ah, tu te démerdes, hein, c'est tes choix, mon gars.
Que je ne connaissais pas, mais qui apparemment a fait quelques trucs qui ont marqué le public cinéphile, comme American Woman ou The Way Back, qu'il faudra donc que je voie du coup pour savoir de quoi je parle. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé les deux premiers épisodes. C'est très traditionnel, hein. Comme je disais, c'est très classique, c'est un genre qu'on a déjà vu beaucoup. Ça rappelle The Killing, notamment, surtout l'interaction en fait entre les deux détectives. Il y a quelque chose de The Killing. Donc pour ceux qui ont aimé ce genre de séries, les séries, tu sais, un peu nordiques, où il y a des meurtres dans des petits villages esselés, eh bien foncez sur Marriott's Town, c'est plutôt pas mal. Et normalement, donc c'est chez OCS, puis sinon ça sera chez votre ami Bob VHS. Comme d'habitude, on passe du côté de la tech avec des bonnes news pour tout le monde, en gros.
Ouais, écoute, en tout cas, j'ai choisi les bonnes nouveautés. Les bonnes nouvelles, il y en a pour qui ça s'est pas bien passé cette année, évidemment. Mais là, c'est le grand moment, la grande messe des annonces, des résultats financiers pour un peu beaucoup de monde. Et donc, du coup, j'ai fait plein dans la conduite. Il y a marqué AMD cartonne, Logitech cartonne, Apple cartonne. Donc, je vais vous les faire dans l'ordre vite fait.
Geekzone cartonne. AMD.
Ouais, Geekzone. What? Hop, mais on fait pas de semi-conducteurs. Putain, on est vraiment trop cons. Et du coup, les valses des annonces fiscales, comme je disais, c'est par exemple 3,445 milliards de dollars chez monsieur AMD, hein, qui buvait la tasse il y a encore pas si longtemps, on s'en rappelle. Donc ça fait une petite progression de 93% sur un an, hein, c'est honnête.
Il y a des gens à qui la pandémie réussit.
Voilà, et puis il suffit de sortir des bons produits. Ça aurait pu être plus, à mon avis, s'ils avaient été capables de fournir plus, mais TSMC peut pas aller plus vite que la musique. Ça fait 6% de plus par rapport aux 3 mois précédents. Et le bénéfice net est à 555 millions de dollars. Donc on commence à être pas mal, surtout que ça fait 243% de plus par rapport à l'année dernière. Donc moi je dis qu'effectivement la pandémie, eux ils aiment ça. Logitech aussi, puisqu'ils ont vendu 2-3 webcams, hein, et puis des claviers, et puis des souris, parce que tout le monde devait travailler de la maison. Et puis que Logitech est quand même un petit peu connu comme marque. Et résultat des courses, 2021 c'est leur meilleure année fiscale ever. Ils ont fait 5,25 milliards, et c'est 76% de plus que l'année dernière, donc c'est assez pas mal, j'ai envie de dire. Et ils ont un paquet de caméras, oui c'est pas français mais je m'en fous, ils ont un paquet de webcams en plus dans les cartons et de nouveaux produits qui arrivent. Ils ont fait pas mal de promos en plus un peu dans tous les sens, qui étaient plutôt intéressants dans le sens où ils sabrent pas complètement les prix, mais c'est suffisant pour déclencher un achat, en fait. Je sais de quoi je parle, puisque même si je reçois des produits pour les tester de temps en temps, tu vois, la MX Master 3 que j'ai dans la main, c'est parce que c'était une promo Amazon, tu vois. Donc, comme quoi, ça fonctionne sur tout le monde. Et puis, Apple. Alors là, Apple... On arrive dans le stratosphérique, puisque eux, ils viennent d'annoncer des résultats records, mais en plus, ils annoncent qu'ils vont effectivement dépenser 430 milliards de dollars d'investissement et exploser, a priori, leurs objectifs de 20 000 emplois d'ici 2023. Ils avaient annoncé, en fait, en 2018, qu'ils allaient investir plus de 300 milliards de dollars, ce qui est quand même un petit peu énorme, aux États-Unis. Et puis, finalement, ça sera plus, parce que ça se passe bien, et puis qu'il faut soutenir les États-Unis, tu vois. C'est le plan Marshall version iPhone. Les résultats sont assez hallucinants cette année, puisque Mac et iPad, tu vois, par exemple, qui sont deux trucs traditionnellement relativement calmes, là, ils ont fait 70% et 78,9% d'augmentation par rapport à l'année dernière, respectivement. Hein. Ça fait 9,10 milliards pour le Mac. Ça va. Et 7,8 pour l'iPad. Ça va aussi, sachant que les iPad Pro M1 et compagnie arrivent. Je ne pense pas que ça ralentisse tout de suite.
Et c'est ce que j'allais dire, je me demandais si c'était déjà comptabilisé ou pas. Mais...
Non, ça vient de, ils sont même pas dispo, parce qu'on va pouvoir les acheter à partir du 30, tu vois. Donc, et ça sera livré mi-mai. Donc là, on en remet une couche. Ils sont en train de préparer l'année prochaine, ça va bien se passer. L'année prochaine, on aura les trucs à base de M2, etc. Donc ça devrait effectivement aussi être très très satisfaisant. L'iPhone, ça a augmenté de 65,5%. Pour un petit business à 47,94 milliards, lol. Mm-hmm. Juste l'iPhone, hein, donc voilà, vous imaginez que ça se passe bien. Donc Tim Cook et puis les analystes, de toute façon, ont effectivement confirmé que l'iPhone 12 et le changement de design, etc., c'est ce qu'on appelle un super cycle. C'est que là, ça a fait exploser en fait les upgrades, les changements, etc. Il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, je vais enfin upgrader parce que celui-là est nouveau. Donc on verra ce que ça donne. Les analystes, évidemment, en revanche, sont tous en panique parce que maintenant, il va se passer quoi? Tu vois, quand t'atteins des sommets, à chaque fois, les mecs se disent, bon, bah là, on est en haut de la montagne, maintenant, ça ne peut que baisser, ce qui ne fait jamais plaisir aux actionnaires. Vous savez dans quel monde on vit. Donc, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Mais voilà, je pense que je suis pas matière à s'inquiéter plus que ça. En tout cas, je vous confirme que ça continue de se vendre. Et puis, ça fait beaucoup rire les gens qui travaillent, qui sont fans de la pomme et qui entendent tous les ans, genre, Apple va mourir. Et ben non, toujours pas les gars, ça c'est pas prévu pour tout de suite, et vu les gammes de produits qui sont en train de se vendre, ça sera pas pour l'année prochaine non plus.
Et c'est la fin de ce 176e épisode de Torréfaction. Alors, chez Geekzone, on lève pas encore des milliards, mais on désespère pas, et on le fait via notre Patreon. C'est patreon.com/geekzonefr, si vous voulez nous soutenir, à raison d'un euro par mois minimum. Vous pouvez le faire, et puis nous, ça nous fait du bien, ça nous aide un peu à subsister pendant ces périodes difficiles. Et puis en échange, on vous file, bien évidemment, des petits cadeaux, comme ce Torréfaction en avance, ou encore la Pause Comics, le podcast d'Archéon, dans lequel il vous fait ses recommandations mensuelles, côté phylactère. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a les démons du midi qui balancent leurs bêtisiers de temps en temps aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse de soutenir Geekzone, que ce soit pour les podcasts, pour le site, pour la communauté de manière générale, n'hésitez pas à faire un saut sur le Patreon. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. À moins que tu veux rajouter un truc.
Ouais, 1€, ça fait pas cher le podcast, les gars. Faites un effort.
C'est vrai. C'est ça. Puis on sera jamais à 3 milliards avec ça. Hein.
Non, ça va pas du tout, quoi. Non, mais effectivement, je faisais la réflexion l'autre jour parce qu'en plus, avec les frais Patreon, tu vois, tu te retrouves avec des trucs avec 0,80, t'es là genre. Ah ouais. Non, bon, blague à part, quoi que ça, même le fait de rien donner, mais si vous partagez sur les réseaux sociaux et que vous faites connaître les produits que nous faisons avec amour, déjà c'est cool. On a eu peu de news cette semaine, mais on a plein de trucs dans les cartons, mais on avait beaucoup de taf à la con à gérer à côté. En plus, moi, au niveau perso, je vais avoir un été un peu compliqué, mais je vais faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Hein. Mais bon, il y a une sorte de déménagement qui se passe et tout, donc. Voilà, je vais faire attention, je ne prendrai pas un truc où on me promet la fibre. Si la fibre est pas dedans, je n'y vais pas. Ça va être très très vite réglé. Il faut aider la famille, hein, voilà.
les petits artisans,
nous on fait de la chaise faite à la main, c'est du ça. Podcast taillé dans le marbre, les gars. Bon, on va arrêter parce que je crois qu'on a tous faim et on vous embrasse du coup, hein.
Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.